Tendance première.
Un volontariat qui est de plus en plus tendance. Vous êtes nombreux à vous inscrire dans toute une série d'associations aussi qui proposent ce genre de vacances un peu différentes. Des vacances, on l'a dit, qui souvent s'adressent à des jeunes, des post-ados comme on dit, mais aussi de plus en plus souvent à des adultes en quête de sens. Bonjour Nicolas Curie.
Bonjour.
Vous représentez le Service Volontaire International qui est justement un des organismes qui propose ce genre de tourisme différent, ou en tout cas ces vacances différentes, des vacances tourné vers le volontariat. Bonjour Marie-Lou Lacroix.
Bonjour.
Alors vous êtes tous sourire puisque vous êtes partie deux fois en tant que volontaire. C'était au Sénégal et au Pérou. On va revenir sur vos expériences dans quelques instants, voir pourquoi à un moment vous avez dit tiens, j'ai envie de partir là-bas, et surtout ce que vous avez fait. Parce que Nicolas, c'est important de vraiment faire une différence entre le volontariat à l'étranger, que ce soit aux portes de la Belgique, mais aussi très loin, et un tourisme humanitaire. C'est vrai, c'est pas la même chose. Quand on part comme volontaire, on va pas spécialement faire des projets de, entre guillemets, développement.
Oui, non, mais c'est d'ailleurs une des questions principales que l'on reçoit quand des personnes nous contactent pour justement vouloir partir sur ce type de projet. On se rend compte qu'il y a, oui, énormément de confusion entre les deux notions, entre une mission humanitaire et un projet de volontariat. D'ailleurs, on va pas parler nécessairement non plus de vacances alternatives, mais bien de projets de volontariat dans ce cas précis. Nous, ce qu'on fait principalement, c'est recadrer déjà les personnes qui nous appellent pour remettre les attentes à un niveau raisonnable. Donc, quelqu'un qui part sur un projet de volontariat, c'est pas quelqu'un qui part en tant que professionnel. Et c'est là la différence principale avec quelqu'un qui part en mission humanitaire.
C'est quoi alors un projet de volontariat ?
Donc, un projet de volontariat, c'est un projet dans le secteur associatif. Ça, c'est déjà essentiel. Après, ça va dépendre énormément des différentes organisations locales qui vont développer chacune leur propre projet en fonction de leur objectif. C'est-à-dire qu'on va avoir des associations qui vont être plus dans la protection de l'environnement, d'autres plus dans l'animation, dans la rénovation. Et donc un volontaire va rejoindre ce projet qui est existant, un projet local, et donc va contribuer au développement de ce projet tout en lui découvrant le secteur associatif, tout en découvrant une nouvelle culture.
Le Service Volontaire International, il existe depuis 2009. Il y a eu quelques centaines de jeunes et moins jeunes qui sont partis pour ces projets de volontariat. Comment est-ce qu'on tisse justement des relations avec des associations sur place ? Comment être sûr que finalement ce que l'on amène ou ce que l'on va aller chercher sur place va pouvoir nous enrichir dans cette démarche aussi interculturelle ?
Nous, en tant qu'organisation, donc on accorde évidemment énormément d'importance dans la relation qu'on a avec nos partenaires sur place. On n'a évidemment pas la possibilité d'être partout pour pouvoir à chaque fois vérifier comment se passent les projets. On utilise énormément les témoignages de nos volontaires justement pour créer ce lien avec des volontaires qui vont suivre par la suite pour avoir le maximum d'informations sur ces projets. Et après, sur place, ça va se passer à chaque fois de manière différente. Mais ce qu'on fait principalement aussi, c'est préparer aussi ces jeunes qui vont partir sur des projets pour faire en sorte que justement leurs attentes ne soient pas démesurées et qu'ils soient prêts justement à découvrir une nouvelle culture avec un prisme différent de celui qu'ils ont ici en Belgique.
On attend vos commentaires, vos questions au 02 737 26 06 ou encore par SMS au 6031. Vous pouvez, comme tous les jours, aller également faire un petit tour sur la page Facebook de La Première pour nous faire part de vos témoignages. Si vous aussi, vous avez participé à une mission de volontariat à l'étranger, si vous tâtez, si vous dites peut-être bien que je ferai cette mission mais j'ose pas, quels sont les critères, etc. Ben, n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, de vos questions. On tentera d'y répondre pendant cette heure consacrée au volontariat. Marie-Lou Lacroix, je le disais, vous êtes partie deux fois en tant que volontaire, Sénégal et Pérou. La première mission, c'était où ?
C'était au Pérou, du coup, à
D'accord.
Trujillo.
Qu'est-ce qui vous a poussé, qu'est-ce qui vous a motivé un jour à vous dire « j'ai envie de partir au Pérou » Et c'était à quel âge ? Parce que je pense que l'âge est important.
Alors oui, en fait, j'avais 22 ans à l'époque et j'avais envie tout simplement de voyager autrement, c'est-à-dire sortir un peu des sentiers battus et rencontrer des gens surtout, puisque pour moi, c'est ce qui fait un peu le voyage, c'est les gens qu'on rencontre là-bas. Et tout simplement être immergé dans la culture et vraiment vivre avec les gens. Et le volontariat m'a donné cette possibilité-là. Donc voilà.
Vous êtes partie combien de temps au Pérou ? Et pour y faire quoi alors finalement ?
Alors je suis partie un mois. Et en fait, j'étais animatrice dans une école pour enfants défavorisés, donc qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école au Pérou. Et du coup, c'était une association qui récupérait ces enfants-là. Je faisais des activités avec eux, je les occupais la journée, des plus jeunes et des moins jeunes, ça, ils allaient de, il y avait des bébés jusqu'à même 16-18 ans. Mmh.
Est-ce que vous aviez un passé justement d'animatrice en mouvement de jeunesse, ou simplement vous avez dit bah, tiens, je vais y aller et je vais découvrir aussi peut-être mes capacités à animer des enfants?
Plus ou moins, j'ai toujours été engagée dans le milieu associatif, même ici, et j'ai toujours eu un contact avec les enfants, j'ai déjà fait des colonies de vacances et voilà, et du coup je voulais pousser un peu cet engagement un peu plus loin et en même temps découvrir autre chose, voir autre chose, donc c'est pour ça que je suis partie au Pérou.
Nicolas, est-ce que le profil de Marie-Lou est le profil de la plupart des jeunes qui à un moment s'engagent dans le volontariat, c'est-à-dire des jeunes qui sont conscientisés, qui sont déjà impliqués dans des projets de volontariat ici?
Oui, les motivations peuvent être très différentes d'une personne à l'autre. Et pour nous aussi, c'est essentiel de voir quand quelqu'un nous contacte, ben, quelles sont les véritables motivations pour partir sur un projet.
Et la plupart du temps, c'est quoi ces motivations?
Donc il y a évidemment la découverte d'une autre culture, c'est indéniable. Sinon, si c'était juste un engagement, c'est clair qu'on pourrait s'engager en Belgique dans le secteur associatif. Mm-hmm. Mais bon, la découverte d'une autre culture est vraiment essentielle. Et c'est souvent justement à travers un projet à l'étranger que peut-être cette conscience associative va se développer plus tard au retour en Belgique. Mais voilà, la découverte d'un autre pays et oui, cette volonté de s'engager, c'est les deux motivations essentielles qu'on retrouve souvent quand on parle à nos volontaires. Oui.
Aujourd'hui, on est au début des vacances. Il y a combien de volontaires qui partent avec votre organisme cette année?
Alors cette année, en individuel en Belgique, on est autour de 150. Mmh. 150 volontaires. Et principalement, c'est vrai, sur des projets courts pendant l'été. C'est-à-dire que c'est vrai qu'on distingue deux types de projets. On a des personnes qui partent sur une période plus longue, de 1, 2, 3, 4 mois. Mais c'est des départs qui s'étalent alors plus tout au long de l'année. Mais c'est vrai que pendant les vacances scolaires, là, on a des participants qui sont souvent plus jeunes, qui sont en vacances et qui s'engagent sur des projets de 2 semaines, 3 semaines. Souvent en Europe alors dans ces cas-là, mmh. Parce que pour les mineurs d'âge par exemple, on a pas mal de projets qui sont organisés, que ce soit en Estonie, en Islande, dans des pays qui sont assez actifs aussi dans la protection de l'environnement ou dans ce type de thématiques et qui attirent pas mal de participants également.
Ouais. Ben on va revenir sur ces projets, entre autres pour les mineurs d'âge et puis pour les autres. On va revenir aussi sur votre parcours, Marie-Lou, puisque le Pérou, eh bien après il y a eu le Sénégal, mm-hmm. autres activités, autres projets de volontaires à l'étranger. Il y a pas mal de SMS qui nous arrivent, pas mal de témoignages aussi par téléphone. On va bien entendu eh bien répercuter ces différents témoignages dans quelques instants.
Tendance première, Cédric Wautier.
Et nous parlons de volontariat international, de volontariat donc à l'étranger, avec toute une série d'initiatives qui sont proposées depuis des années et qui eh bien, ont de plus en plus de succès. On en parle avec nos deux invités, Nicolas Curie du Service Volontaire International, l'un des organismes qui propose ce genre de démarche, et puis avec Marie-Lou Lacroix, qui est partie en mission une première fois au Pérou, une deuxième fois au Sénégal. Elle va eh bien, revenir sur ces différentes missions et nous expliquer ce que ça lui a apporté très concrètement.
Tendance première.
Avec nos deux invités, Nicolas Curie du Service Volontaire International et puis Marie-Lou Lacroix, qui est partie en mission une première fois au Pérou, puis au Sénégal. Et puis on a par téléphone un témoignage, celui de Guillaume. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors vous êtes parti au Mexique, c'était il y a combien de temps?
C'était l'année dernière sur un projet environnemental pendant un mois.
Ça veut dire quoi un projet environnemental au Mexique quand on part en tant que volontaire?
C'était un projet en fait avec une association locale de conservation des tortues de mer. Et c'est un projet qui me tenait à cœur parce que j'ai toujours eu cette fibre environnementale. Et quand j'ai vu ce projet, j'ai pas hésité et j'ai foncé.
Alors concrètement, vous êtes parti un beau jour après avoir quoi été formé quand même à ce que vous alliez découvrir sur place, ou on part vraiment en disant « Ok, je vais découvrir ».
Bah, j'ai eu la chance de pouvoir bénéficier d'un week-end de préparation au départ de la part du SVI. J'ai pu bénéficier de témoignages de la part d'anciens volontaires du SVI, de Nicolas notamment, qui est présent à l'antenne. Et mm-hmm. Ça a été très utile pour moi. J'avais un peu une appréhension au moment de partir, parce que c'est la première fois que je quittais la Belgique. Mais finalement, ça a été incroyable. J'ai bien vécu la différence culturelle et ça a même été une force et une richesse pour moi incroyable.
Pourquoi ? Qu'est-ce que ça vous a concrètement apporté ? Qu'est-ce que ce mois passé au Mexique vous a apporté ? Et en quoi ça vous a changé peut-être ?
Eh bien, c'est d'abord la possibilité de rencontrer plein de volontaires internationaux sur un chantier qui où on est une dizaine de plein de pays différents. Enfin, il y a eu des histoires incroyables, des amitiés incroyables. Par exemple, je me souviens de leur avoir fait écouter du Vianney au bord de feu pendant nos soirées. C'était vraiment incroyable.
Vianney puis, au Mexique.
voilà, exactement. Et ça, je pense que jamais je m'en serais douté de pouvoir écouter du Vianney à l'autre bout de la planète.
Moi non plus.
et voilà, c'est un de mes grands chanteurs préférés, donc j'avoue. Et sinon, bah voilà, c'est la possibilité de rencontrer des personnes qui ont une culture différente, qui ont une vision différente de la vie et de pouvoir confronter ça. Et voilà, ça a été un enrichissement incroyable pour moi.
Alors visiblement, Vianney au Mexique, ça fait beaucoup, beaucoup rire Nicolas Curie, hein, qui est notre invité du service volontaire international. Mais il a l'air d'adorer Vianney. Marie-Lou, vous aussi vous êtes mort de rire, mais c'est pas grave, je vais quand même essayer de
concentrer
sur votre témoignage. Parce que, est-ce que vous vous retrouvez un peu dans le témoignage de Guillaume ?
Oui, absolument, ouais.
C'est-à-dire ?
En fait, ça nous apporte plein de choses dont, au début, on s'attend pas forcément à trouver ça là-bas, rencontrer des personnes qui viennent de partout dans le monde. En fait, c'est des choses que seul le volontariat nous donne. Enfin, on a l'opportunité, une opportunité énorme de rencontrer des gens qu'on n'aurait pas rencontrés autrement. Et c'est vrai qu'en général, entre tous les volontaires, il y a vraiment un sens de la solidarité qui se forme. Et c'est vraiment, en général, des groupes super liés. Enfin, moi, en tout cas, au Pérou, c'était vraiment comme ça. Et oui, c'est super. Enfin, au niveau social, c'est une aventure extraordinaire. Ouais.
Dites donc, vous avez encore la patate quand vous en parlez. Vous partez cette année-ci ou pas ?
Non.
Oh.
Non, malheureusement.
Guillaume,
non.
Vous repartez cette année-ci, vous ?
Oui, j'ai un projet au Sénégal avec l'association ADE, un projet d'animation cette fois-ci, et ça m'a vraiment donné envie de continuer, de repartir avec le SDI, avec une association, et voilà, j'ai hâte d'y retourner.
Guillaume, une dernière petite question, comment est-ce qu'on se sent quand on rentre de ce genre de projet, les quelques semaines qui suivent ce genre de projet ? Est-ce qu'on a envie de s'impliquer différemment peut-être en Belgique ?
Exactement. Bah, c'est là que j'ai pu m'impliquer aussi dans le SVI, pouvoir venir témoigner lors de week-ends de préparation au départ, devenir un membre actif du SVI et également pouvoir m'engager dans d'autres associations ici en Belgique. C'est pas seulement un projet qui dure un mois, c'est un projet qui dure, qui est un commencement, un tremplin et qui permet de s'engager ici en Belgique et ailleurs sur des engagements associatifs. Et c'est vraiment une vraie chance de pouvoir vivre ça à 20 ans. Et je saurais que la promouvoir auprès des autres jeunes belges aujourd'hui.
Ah ben on va continuer à parler un peu de ce genre de projet. Est-ce que Vianney est prêt pour cette année, pour cette expérience au Sénégal, ou vous avez changé de chanteur ou de musicien cette année ?
En ce moment, je suis plutôt Radiohead, mais les deux me vont bien.
Allez, ça va. Ça fera moins rire, Nicolas. Merci beaucoup, Guillaume. Merci pour ce témoignage. Et puis, on croise les doigts, évidemment, pour votre projet au Sénégal. Nicolas Curie, du Service Volontaire International. On vient de parler de cet organisme. On vient de parler aussi de cette formation. Parce que c'est important aussi de spécifier à tous ceux qui nous entendent et qui seraient tentés par ce genre d'expérience qu'on ne part pas comme ça sans aucune formation. Les témoignages sont importants, les mises en garde aussi. Qu'est-ce qu'on apprend pendant ces week-ends de formation ?
Ça couvre pas mal de sujets, effectivement. Effectivement, comme l'a précisé Guillaume, c'est quelque chose qu'on recommande absolument à tous les volontaires qui vont partir. Et c'est pour ça aussi qu'on demande qu'il y ait une durée minimum entre le moment où on décide de partir sur un projet et le moment où on part effectivement sur un projet d'environ 2 mois, pour pouvoir justement avoir la possibilité de participer à ce week-end. Donc c'est un week-end pendant lequel on va aborder des aspects parfois très pratiques, genre au niveau santé, sécurité, on va aussi aborder toutes des thématiques liées au choc culturel, à la place justement d'un volontaire sur un projet, sur les différences au niveau de la communication à travers justement les différences culturelles.
Un exemple, différence de communication quand on part, parce que c'est vrai que c'est souvent assez frappant, assez marquant quand on arrive dans un pays lointain ou en tout cas qui ne partage pas la même culture que la nôtre.
Mais il ne faut pas aller si loin pour voir des différences culturelles, j'ai envie de dire. Rien qu'entre la France et la Belgique, dans notre équipe, c'est vrai qu'on
on
a
se
déjà...
On fait deux bises au lieu d'une.
Et voilà, ça crée déjà parfois des quiproquos. Donc on peut imaginer, quand on part justement à l'autre bout du monde, qu'avec la barrière de la langue en plus, il peut y avoir des situations qui peuvent parfois prêter à confusion. Quoi.
Marie-Lou, entre le week-end de formation et la réalité de terrain, que ce soit au Pérou ou au Sénégal, est-ce qu'il y a eu des grosses différences? Est-ce que là, vous avez dit, c'est pas du tout ce que j'avais imaginé?
C'est vrai que le week-end de préparation, au départ, il prépare bien, il nous remet un peu les pieds sur terre pour remettre nos attentes, pas s'attendre à arriver et que tout soit parfait. Et voilà, faut pas avoir de trop grandes attentes. Je veux dire, être fixé sur quelque chose de spécial, puisque ça se passera jamais comme on l'a imaginé de toute façon. Mais si on est flexible et qu'on sait s'adapter un peu à toutes les situations, il n'y a jamais de problème. Moi, j'ai pas. Enfin, forcément, il y a un choc culturel à l'arrivée et au retour aussi. Et le retour n'est vraiment pas évident. Ça peut mettre. Moi, je suis personnellement partie un mois et j'ai mis peut-être 2-3 semaines à me remettre.
Pourquoi ?
En rentrant.
Pourquoi ?
Mais parce que on quand on est là-bas, on donne du sens à ce qu'on fait. Et on est dans une communauté où on se sent utile, où on fait quelque chose, on sait pourquoi on le fait, et on rentre chez nous et on se demande un peu comment on va pouvoir prolonger cet engagement-là chez nous, comment on va pouvoir faire la même chose en rentrant, quoi. Et c'est pas forcément évident d'atterrir comme ça.
Nicolas, se sentir utile, est-ce que c'est une des motivations principales aussi des jeunes et moins jeunes qui veulent partir en volontariat?
Oui, c'est clairement une des motivations principales maintenant.
Est-ce qu'on sera utile sur place alors?
Mais si on cherche à être utile, absolument à être utile, souvent on va être extrêmement déçu. Effectivement, parce que, et c'est là toute la différence qu'on expliquait avant, on part pas en tant que professionnel, on part, le volontariat international, on l'ouvre absolument à tout le monde, il faut pas nécessairement avoir de compétences, donc on va apporter son soutien à un projet, mais on va recevoir également énormément de cette expérience, et c'est plus dans cet échange interculturel qu'il faut se projeter en partant en volontariat international. Donc c'est un engagement associatif. On part pas les mains dans les poches juste parce que on sait pas quoi faire pendant les vacances, mais c'est avant tout un échange interculturel et on va soutenir le secteur associatif à l'étranger avant évidemment. Pourquoi pas continuer à soutenir le secteur associatif localement. Pour nous, c'est vraiment... Le volontariat international n'est pas une finalité en soi. C'est vraiment le début d'un engagement. Et en tant qu'organisation de jeunesse, nous, on considère que c'est vraiment important d'avoir... ça participe à la formation de citoyens, en fait, cet engagement associatif à l'étranger.
Et cette formation de citoyens, on va y revenir dans quelques instants. On va revenir aussi sur les aspects pratiques. Qu'est-ce qu'il faut faire quand on veut partir dans ce genre d'aventure? On va en parler juste après avoir écouté Mes Sparrow et Ne me change pas, extrait de l'album Jungle contemporaine.
Tendance première.
Avec Nicolas Curie, un représentant du service volontaire international, et puis Marie-Lou Lacroix, vous êtes partie à deux reprises pour des missions à l'étranger, une première fois au Pérou, une deuxième fois au Sénégal. Revenons sur cette mission du Sénégal. Donc un an après le Pérou, vous dites « j'ai envie de repartir ».
Eh oui.
J'ai trop kiffé. Et bien j'y retourne. Mais pour faire quoi à ce moment-là?
Alors en fait, du coup, le Pérou m'avait bien plu, donc j'ai continué, j'ai repris un projet qui était avec les enfants, donc travailler avec les enfants. Donc pareil, c'était de l'animation et préparation d'activités pour des enfants plus jeunes cette fois-ci. Et c'était du coup un autre continent, une autre culture complètement différente et avec des enfants dont je ne parlais pas leur langue du tout puisqu'ils parlaient le Wolof et très peu de français. Donc c'était vraiment une autre expérience, c'était très différent. Là, quand on parlait de problèmes de communication tout à l'heure, c'était vraiment ça. On a essayé d'instaurer une communication avec les gestes, avec les intonations et c'était vraiment différent mais tout aussi enrichissant.
Comment est-ce qu'on fait justement pour rentrer dans ce genre d'animation quand on parle pas la langue, quand on connaît peu le pays, les premiers jours, est-ce qu'on se sent mal à l'aise ou pas spécialement?
Pas forcément mal à l'aise mais c'est plus difficile les premiers jours, ouais. C'est un travail constant. Quand on se comprend pas, il faut faire pour qu'on se comprenne au final. Donc c'est mettre des techniques en place, des techniques d'animation avec les jeux. De toute façon, c'est des enfants, donc les enfants, la communication avec le sourire, ça passe toujours et on arrive toujours à trouver des jeux ou des activités qui font qu'on est sur la même longueur d'onde au final.
Une expérience au Pérou, une expérience au Sénégal. Qu'est-ce que vous avez appris des deux expériences et des différences finalement? entre ces deux continents?
Beaucoup, beaucoup de... Enfin, oui, vraiment deux pays très différents, donc deux expériences différentes. Voilà, les deux expériences étaient enrichissantes, justement au Sénégal, parce que on découvre une nouvelle culture, une nouvelle... c'est pas la même religion non plus là-bas, donc on s'adapte en tant que femme qui part en volontariat, c'est un peu plus compliqué de partir dans un pays à majorité musulmane. Voilà, mais pareil, ça c'est des choses, il faut s'adapter et être ouvert. Ça apprend, le volontariat, ça apprend vraiment à s'ouvrir au monde et à s'ouvrir à différentes cultures. Et c'est vraiment ça que ça m'a appris, et la comparaison des deux projets. Ouais, c'est vraiment selon l'endroit où on se trouve sur la planète, il faut s'adapter vraiment. Il faut être.
Et s'adapter comment? En tant que femme qui part au Sénégal, vous dites, j'ai dû m'adapter, quelque part, il y avait des grandes différences par rapport au Pérou, mais s'adapter comment? Dans le quotidien.
Mais déjà, il faut savoir être conscient déjà de ces différences-là culturelles. En être conscient, les règles sociales sont différentes. Donc, quand on arrive dans un pays, on est un peu perdu. Il faut vite repérer en fait ces différences-là pour pouvoir s'y adapter justement. Et puis, en discutant avec les gens, en fait, pour moi, c'est toujours la relation avec les gens qui construit un peu l'expérience. Donc, en parlant avec les gens, on se rend bien compte de ce qu'on peut faire, de ce qu'on peut dire ou pas. Et ouais. C'est vraiment la rencontre avec la population locale qui fait tout, qui fait l'adaptation. Et voilà.
02 737, si vous avez été vous aussi marqué par une expérience de volontariat à l'étranger, si vous voulez partager votre témoignage, vos questionnements, eh bien, n'hésitez pas à nous téléphoner. On partagera aussi, eh bien, évidemment, ces quelques mots en compagnie de nos invités. Et puis, vous pouvez également envoyer un SMS au 6031 ou aller faire un petit tour sur la page Facebook de la première. Nicolas Curie du Service Volontaire International. Très pratiquement, quand on veut partir comme ça, ben, il y a aussi toute une série de démarches. On a parlé déjà de week-end de formation. Il y a d'autres démarches parce qu'on ne part pas les mains dans les poches, on ne part pas sans budget. Quand on veut s'engager dans un budget, dans un projet comme celui-là, qu'est-ce qu'on doit prévoir aussi comme budget?
Ah ben, ça va dépendre énormément du type de projet sur lequel on va s'engager. Donc effectivement, si on part en volontariat sans dispositif sur un projet en Nouvelle-Zélande, rien que le billet d'avion aller-retour plombe déjà pas mal le budget. Par contre, on a effectivement des projets de volontariat, comme ça a été annoncé avant l'émission, qui sont en Allemagne, en Espagne, en Italie, donc chez nos voisins. Et donc en termes de budget, rien que pour le déplacement, c'est déjà un peu plus limité. Et après, en tant que frais sur place, ils sont extrêmement limités aussi sur les pays limitrophes. Donc
quand on part en Italie ou en Allemagne, c'est dans quel genre de projet?
C'est souvent des projets réservés à des participants assez jeunes. C'est là qu'on retrouve aussi pas mal parfois de projets réservés aux adolescents. Donc c'est plus des projets souvent liés, encore une fois, à des thématiques environnementales ou dans la rénovation. C'est ce qu'on appelle vraiment des chantiers de volontariat. Historiquement, c'est comme ça que ça s'appelle. Et comme Marie-Lou l'a dit, ou Guillaume, je sais plus, il y a pas mal de jeunes qui viennent d'un peu partout dans le monde. Et l'idée, c'est de créer donc une double expérience interculturelle, parce qu'on part dans un nouveau pays, découvrir une association, s'engager, mais à la fois, on vit pendant 15 jours avec peut-être des Mexicains, des Coréens, des Français, des Allemands, et cette double expérience est extrêmement fondatrice pour des participants de cet âge-là.
Oui. Vous savez quoi, ça me donne envie de retomber en adolescence, du coup, je vous écoute. Et les stages sont... Les projets sont complets pour cette année-ci, ça veut dire qu'il y a un vrai succès pour ce genre de vacances.
C'est-à-dire que, surtout pour les projets ouverts à des participants mineurs d'âge, donc à partir de 16 ans, c'est clair qu'on a une forte demande et les projets commencent à se remplir à partir du mois de mars-avril. Et les associations avec lesquelles on travaille maintenant commencent à être complets. Les projets commencent à être complets. Il reste encore quelques places pour le mois d'août sur certains projets en Europe, mais ça commence à devenir assez limité. Et on parlait des adolescents, mais il y a une tendance qui commence aussi un peu à se développer, c'est qu'il y a certains de nos partenaires qui commencent à ouvrir des projets aux plus de 50 ans également.
Justement, j'allais revenir sur un SMS qu'on vient de recevoir. Oh, quelle transition, c'est magnifique. SMS qu'on vient de recevoir. Bonjour, je voudrais savoir s'il y a des projets similaires pour les 50 ans et plus. Merci pour votre réponse, Corinne. On a le même genre de questionnement un petit peu plus bas. Donc voilà, il y a des gens de plus de 50 ans qui veulent partir aussi en tant que volontaire. On va revenir sur cette expérience parce que les projets existent. Et qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, si vous avez plus de 50 ans? C'est ce qu'on va découvrir après Gus Gus et Police. Bonjour, je suis un jeune retraité avec un peu d'expérience d'échange culturel avec l'Amérique latine. J'ai maintenant le temps qui me manquait auparavant. Existe-t-il des possibilités de volontariat pour des cas comme le mien? Merci pour votre émission, Marco Lefebvre. Eh bien, on va répondre à ce SMS de Marco au 6031 parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de SMS qui nous arrivent de demandes pour les 50 ans et plus. Nous parlons de volontariat et de volontariat à l'étranger dans Tendance Première.
10h midi, Cédric Gauthier.
Sur la première. Du couple conjugal au couple parental, c'est le sujet de notre séquence Germain et nous 3.0, sujet que nous pourrons réentendre sur le coup de 11h30. Mais avant ça, nous parlons de volontariat avec nos deux invités, Nicolas Curie du Service Volontaire International et Marie-Lou Lacroix qui est partie elle aussi avec le SVI pour deux missions au Sénégal et au Pérou. On a eu pas mal de SMS, Nicolas je le disais avant cette interruption, de gens qui ont plus de 50 ans et qui se demandent s'ils peuvent eux aussi partir. Ils ont du temps, ils ont l'envie de partir. Quelle est... Eh bien, la possibilité pour ces gens de partir, est-ce qu'il existe de véritables projets?
Il existe des projets maintenant qui commencent à leur être dédiés, entre guillemets. Pourquoi? Parce que clairement, les projets courts de volontariat, les chantiers de volontariat durant l'été, sont vraiment orientés pour un public de 16-24, je veux dire, dans la grande majorité, dans lesquels ils ne se retrouvaient pas nécessairement. Mais là, on a découvert cette année, par exemple, que certains de nos partenaires, je pense notamment à un partenaire en Islande, qui est assez actif sur des types de projets, encore une fois, liés à la protection de l'environnement, qui a réservé certains de ses projets pour les plus de 50 ans. Donc c'est une tendance qui commence à grandir, même si au départ, voilà, on reste une organisation de jeunesse et réservée à un public de participants jeunes, mais il existe des projets de plus en plus qui se développent pour les plus de 50 ans. Oui.
SMS 6031, j'ai 71 ans. Un de mes meilleurs souvenirs de jeunesse est un chantier en ex-Yougoslavie en 1966 et j'ai toujours rêvé de repartir un peu tard, peut-être. Nicolas ? Tard ou pas tard?
Non, en fait, non. Non, on met clairement pas de limite d'âge. Moi, j'ai un souvenir au Pérou également, où sur un des projets de volontariat que j'animais, on a eu une volontaire de 81 ans. Donc, qui en soi, parfois, était sur certains aspects, parfois plus active que certains volontaires plus jeunes. Donc, non, il faut pas se fixer de limite d'âge à ce niveau-là. Il n'y a pas vraiment d'âge pour commencer à s'engager, comme pour commencer quoi que ce soit. Donc,
voilà. Est-ce qu'on peut s'engager aussi pour répondre à une question aussi qui nous est parvenu au 6031 par SMS, est-ce qu'on peut s'engager en famille? Est-ce qu'il existe des projets où on peut partir avec ses enfants? Et si oui, à partir de quel âge? Parce que, pour reprendre ce SMS, hein, quitte pour les familles avec enfants, ce serait une expérience magnifique pour eux aussi, voir leurs parents s'investir.
Oui, il y a la possibilité. Maintenant, ça demande une organisation qui est quand même différente de quelqu'un qui va partir seul ou avec un ami sur un projet. Donc ça va dépendre énormément déjà de nos partenaires locaux. S'il y a la possibilité ou pas pour des questions de sécurité pour les enfants ou des questions sanitaires, est-ce que c'est opportun d'accueillir une famille sur ce type de projet? Et c'est quelque chose qui se construit alors directement avec le partenaire sur place pour voir effectivement, ben oui, est-ce que au cas par cas, mes enfants ont 7 et 10 ans, est-ce que c'est possible? On vient à deux avec nos deux enfants, est-ce que c'est possible de nous accueillir sur ce projet? Mais c'est vraiment quelque chose qui va s'étudier au cas par cas.
Ouais. On a pas mal de témoignages qui nous arrivent au 60-31. Oups, je me rajeunis, 66 ans, voilà un premier témoignage. Certaines ONG belges comme le SCI et Quinoa permettent aussi de partir en volontariat tout en prenant part à un processus de conscientisation sur les systèmes de domination économique et culturelle de nos pays, sur les pays de destination. La rencontre culturelle sert ainsi, en plus de vivre un beau moment de vacances et de rencontres interculturelles, elle sert aussi à questionner nos politiques européennes et d'agir ensuite ici, chez nous, pour influer sur celles-ci. C'est le témoignage de Christelle au 6031. Est-ce que quelque part, Marie-Lou, ces voyages vous ont aussi conscientisé à toute une série de problématiques économiques et vous ont donné envie ici de vous engager, que ce soit avec la jeunesse, que ce soit dans des mouvements sociaux ou que ce soit dans des réflexions autour de l'économie, de la politique ou du social?
Oui, absolument. Non pas que j'en étais pas consciente avant, mais de partir et de voir, de découvrir ça de mes propres yeux et d'agir pour ça, ça donne forcément envie quand on rentre de prolonger cet engagement chez nous, puisqu'il y a beaucoup d'associations qui le permettent. Même l'action, elle est possible pas seulement à l'étranger, mais en Belgique, en France, il y a beaucoup d'associations qui proposent de s'engager. Et j'ai toujours été plus ou moins bénévole et volontaire dans les associations. Mais c'est vrai que d'y aller, ça donne encore plus envie. En rentrant, on a vu et on veut agir contre toutes les choses que vous dénonciez.
Autre témoignage, c'est celui de Suzanne au 02 737 26 06. Je le lis. J'ai fait plusieurs expériences de volontariat en Inde. La première remonte à 20 ans. J'avais alors 50 ans. On y revient. Je venais de perdre mon mari. Je suis partie avec la Fondation Damien dans un village de lépreux pour construire une école. Il faisait très chaud. Le travail était très dur, mais il y avait tellement de chaleur humaine que j'ai fait l'expérience d'une richesse incroyable. Après, je suis partie pour aider une clinique. J'ai soigné des lépreux alors que je n'avais aucune compétence médicale. J'étais une femme d'affaires à la base. Je voyais aussi le médecin sur place qui, en fait, était infirmier de formation, mais amputé comme un médecin, car il n'y avait pas de médecin sur place. Ce témoignage, Nicolas, témoignage de Suzanne, il nous amène aussi à cette question des limites, peut-être, du volontariat. Ici, Suzanne, ça s'est bien passé, visiblement, son expérience. Il y a aussi des gens qui peuvent se dire, tiens, je vais partir comme volontaire pour donner un coup de main à des ONG, alors que je ne suis pas formé à ça. Et je sais que pas mal d'ONG, pas mal de travailleurs de terrain dénoncent quelque part cela.
Oui, mais là, on parle plus du secteur associatif et un témoignage comme celui-là, nous, c'est clairement quelque chose qui nous pose question, effectivement.
Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que poser des actes médicaux sans aucune formation, on ne le ferait pas chez nous, non. Mm-hmm. Pourquoi aller le faire à l'étranger ? Je veux dire, c'est faire prendre des risques inconsidérés à une population, et c'est, voilà, encore une fois, on n'accepterait pas que quelqu'un sans aucune formation nous soigne une plaie, donc pourquoi on irait le faire à l'étranger ? Et maintenant, c'est clair que il y a toute une partie du secteur qui peut avoir un discours un peu limite à ce niveau-là, mais là... Là, on va parler plutôt d'agences de voyage déguisées qui vont vendre des séjours humanitaires et qui vont clairement utiliser justement un vocabulaire lié à l'humanitaire pour permettre, soi-disant, à des jeunes de partir sur des projets de volontariat à l'étranger, mais qui sont en soi juste rien d'autre que des séjours commerciaux qui sont organisés pour faire du profit. Parce que voilà, on parle plus du secteur associatif, là on est vraiment dans le secteur commercial.
Oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a sur le marché de véritables agences qui proposent ça, c'est devenu quelque chose entre guillemets à la mode ?
C'est devenu des agences qui ont une force de frappe assez importante au niveau marketing, etc., et qui, au niveau des moteurs de recherche, vont souvent apparaître dans les premiers résultats, parce que voilà, elles ont, en tant que qu'agence de voyage, un pouvoir financier qui leur permet d'investir en termes de publicité, etc., pour avoir une grosse visibilité. Mais maintenant, il faut pas se leurrer. Il y a des signes qu'on peut très facilement identifier sur leur plateforme, où on voit clairement qu'on n'est plus dans le secteur associatif. Et d'ailleurs, voilà, on n'est pas la seule association, on l'a rappelé, qui organise des projets de volontariat internationaux. Mais il faut avoir un regard critique par rapport à ce qu'on peut trouver en ligne, parce que pas mal d'organismes profitent de la situation et de cet engouement, justement, pour le volontariat international.
Alors, on va faire un peu de pub, si vous le voulez bien, et pas déguisé, parce que vous venez de parler, justement, d'autres organisations qui permettent de faire ce genre de voyage. On a beaucoup parlé de votre organisation, le Service Volontaire International. Vous connaissez d'autres organismes qui sont sérieux, qui proposent aussi ce genre de voyage. Est-ce qu'on peut en citer justement quelques-uns pour les auditeurs qui voudraient aller piocher une ou deux destinations ou une ou deux thématiques qui peuvent les intéresser. Comme ça, justement, on ne tombe pas dans ce que vous venez de décrire.
Oui, y en a deux qui ont été cités tout à l'heure. Donc, évidemment, Quinoa, il y a le SCI, il y a Java également. Ce sont les trois acteurs principaux en Belgique avec nous qui sont dans le même état d'esprit et dans cette idée d'éducation non formelle également à travers le volontariat.
Ouais. En dernier témoignage au 60-31 pour les familles, l'accueil d'enfants de Tchernobyl est un projet tout à fait adapté. On peut ensuite partir à la rencontre des familles biélorusses d'où proviennent ces enfants. C'est vrai qu'on peut faire aussi des choses en Belgique. Ça fait partie des projets que vous proposez, vous aussi, au SVI ?
En fait, comme on voit le volontariat international comme un échange interculturel, évidemment, il y a également des projets qui sont organisés en Belgique, mais ça va être des projets organisés en Belgique principalement pour des volontaires internationaux. Donc, on a par exemple en ce moment des volontaires mexicains, équatoriens, qui sont dans des structures d'accueil du style L'Arche, qui est une maison d'accueil pour adultes en situation de handicap, et qui sont là pour plusieurs mois pour apporter leur soutien à ce projet. Après, on a pendant l'été également des projets plus courts. Là, prochainement, on a le Brussels Game Festival fin août. On a des volontaires internationaux qui vont aussi, dans la même démarche que des volontaires belges vont partir à l'étranger, vont s'engager ici sur un projet associatif.
Voilà, encore pas mal de témoignages. On a hélas plus le temps de les répercuter, mais on refera peut-être un jour une émission sur ce genre de voyage. Merci beaucoup Nicolas Curie du Service Volontaire International. Merci beaucoup Marie-Lou Lacroix, avec vos deux projets au Sénégal et au Pérou. D'autres projets pour l'avenir ou pas?
Oui, j'espère. Beaucoup.
Plus pour l'instant?
Non.
Allez, on écoute Diana Krall et Love.